Donc bonsoir à vous. Je vais rester debout parce que sinon on ne va pas vraiment se voir. Donc c'est pas très sympa de parler aux gens si on ne les voit pas. Comme l'a dit Gwenaël, je suis donc député Europe Écologie depuis le mois de juin 2009, à Bruxelles et à Strasbourg. Et dans le cadre donc de ce mandat, j'ai été élu vice-président de la Commission agriculture et développement rural du Parlement européen. Alors c'est vrai que c'est pas tout à fait étonnant que j'ai choisi de siéger dans la Commission agriculture, dans la mesure où pour moi le fait d'être élu, c'est continuer d'une autre manière le combat que j'ai pu mener en tant que paysan et en tant que syndicaliste à la Confédération paysanne. Et donc je me suis dit, c'est vrai que plutôt que de laisser toujours les autres avoir le discours politique et essayer de changer les politiques, bien si ce sont les acteurs de terrain qui sont dans les institutions, on verra ce qu'on est capable de porter à partir de nos expériences. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité être d'abord dans cette commission et ensuite donc pouvoir m'engager dans cette période particulière sur un sujet qui arrive évidemment à point nommé, qui est la réforme de la politique agricole commune, qui est envisagée pour 2013. Alors avant de rentrer peut-être dans une explication un peu rapide, et puis après dans le débat, si on veut, on pourra reprendre, je crois que c'est assez intéressant de voir déjà, en gros, depuis la naissance de la PAC en 1957 jusqu'à aujourd'hui, dans les grandes lignes, comment les décisions politiques agricoles ont influencé sur le foncier et sur l'accès des paysans au foncier. Je crois qu'il y a effectivement une corrélation très forte. Et je vois beaucoup dans la salle de gens qui sont paysans aujourd'hui, mais je vois aussi beaucoup d'anciens et qui, à mon avis, doivent aussi avoir des témoignages sur l'évolution par rapport au foncier, en fonction des productions, en fonction des politiques qui ont été menées. Donc si on revient à 1957, donc début de la PAC, c'est le moment où l'Europe décide de mettre tous ses moyens en commun pour faire en sorte d'arriver à l'autosuffisance alimentaire, à la sortie de la guerre, la production a dégringolé et il y a besoin de produire pour pouvoir nourrir les habitants de l'Europe. Et donc les choix sont faits à ce moment-là de moderniser. Il y a des choix qui sont mis en place. Et un des choix qui est fait ensuite en France, parce que les choix sont différents par pays, parce qu'en fait le droit foncier, le droit de la propriété, de la location des terres agricoles sont très différents d'un pays à l'autre. Donc il n'y a pas eu de législation et il n'y a toujours pas de législation foncière au niveau européen. Donc c'est dans chaque pays. Donc la façon dont ce projet se met en place en 1957 et dans les années qui suivent pour mettre en adéquation l'augmentation de la production avec mettre en adéquation cette volonté avec les outils de production, ça se fait dans le cadre d'une loi, ce qu'on appelait la loi de modernisation, et qui est mise en place par Edgar Pisani, le premier ministre de l'agriculture du général de Gaulle. Et c'est lui qui, à la fin des années 50, met en place des règles pour inciter les paysans à produire. Alors à l'époque, les aides qui viennent de Bruxelles, ce sont des aides au kilo, donc plus on peut produire, plus on a d'aides, mais en même temps, pour pouvoir aller encore plus loin et que les gens soient incités à produire, il faut qu'ils soient dans les conditions pour les amener dans cette logique-là. Parce qu'après tout, si les gens mangent correctement sur leur ferme et dans leur village, qu'ils arrivent à vendre leurs produits, ils n'auront pas forcément envie de produire toujours plus. Donc il faut les inciter à produire. Donc comment on les incite à produire? Et là, il y a un petit truc un peu machiavélique qui se met en place à ce moment-là. C'est que pour moderniser, en gros, il faut que les gens s'endettent. Donc il faut qu'ils s'endettent. Donc on renforce le pouvoir de la banque et on incite les agriculteurs à devenir propriétaires, à acheter le foncier. C'est la naissance de la SAFER et c'est la mise en place des outils pour que les agriculteurs deviennent propriétaires. L'idée à ce moment-là d'Edgar Pisani, c'est que les agriculteurs deviennent propriétaires de leurs terres. Parce que la réalité, évidemment, est tout autre. Il y a Alors, dans le département de l'Aveyron, c'est un peu une spécificité, parce qu'il y a beaucoup ce qu'on appelle de faire-valoir direct, où les gens sont agriculteurs en famille, par succession, en propriété. Mais dans la majorité des régions françaises, énormément d'agriculteurs sont locataires de leurs terres. Donc l'idée qui vient à ce moment-là, c'est de dire qu'il faut que les gens deviennent propriétaires de leurs terres. Et s'ils deviennent propriétaires, évidemment, ils n'ont pas l'argent, donc ils vont emprunter. S'ils empruntent, eh bien, pour pouvoir rembourser leur emprunt, ils vont être obligés de produire plus pour dégager un bénéfice supplémentaire. Et ainsi de suite, la mécanique est lancée. Cette politique marche pour arriver à un certain agrandissement, mais la politique d'achat ne se fait pas vraiment. La politique d'achat ne se fait pas vraiment. Et aujourd'hui, 60 ans après, eh bien, y a toujours à peu près la moitié des terres qui sont cultivées en fermage. Donc la course à l'achat n'a pas forcément fonctionné. Mais en même temps, il y a eu la modernisation, les emprunts pour acheter du matériel, et c'est vrai que le mécanique a joué le jeu. Les aides européennes ont été augmentées, et donc les gens sont partis dans les aides à la production. Plus on produisait, plus on avait d'aides. Et ça a été tout le schéma des années 60, des années 70, jusqu'à ce qu'on arrive à une situation de blocage. C'est ce qu'on a appelé les montagnes de beurre ou les frigos de Bruxelles qui regorgeaient de carcasses de viande bovine qui n'étaient pas vendues ou des montagnes de beurre. Et donc, à ce moment-là, il a fallu réguler. C'est l'époque de l'apparition des quotas en 1984 et des outils de régulation du marché. Donc ça a été, on peut dire, une première phase. Dans cette phase-là, les agriculteurs ont défini en fait d'autres stratégies que celle de l'achat du foncier. Et c'est ce qui fait que cette politique d'achat n'a pas aussi bien marché qu'ils l'auraient pensé. L'autre stratégie qui a été développée par les paysans à juste titre, dans le cas évidemment où ils n'étaient pas propriétaires, ça a été de se battre pour modifier le statut du fermage et pour améliorer les lois sur le statut du fermage. Et c'est vrai que les années 60-70 ont donné lieu à énormément de mobilisations syndicales qui ont fait que petit à petit, le statut du fermage a évolué dans les années 60. 77, il y a eu une grosse modification du statut du fermage. On est passé au fermage calculé avec des points. Il y a eu les commissions départementales qui, plus en plus, ont précisé les choses. Et la loi sur le statut du fermage est devenue un droit tel qu'aujourd'hui, à moins de ne pas payer son fermage, 2 ans de suite, un propriétaire ne peut pas expulser son fermier. Et donc ça, c'est une vraie bagarre qui prend ses racines à la sortie de la Seconde Guerre mondiale et qui aboutit dans ce rapport de force propriétaire-fermier au milieu des années 80, même début 90. Donc c'est pour ça qu'on comprend que les agriculteurs ne se soient pas jetés à corps perdu uniquement dans l'achat du foncier. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, au moment où la PAC commence à se changer parce que les aides à l'hectare, on se rend compte que ça coûte énormément d'argent et que ça génère des surplus tout à fait ingérables, on met en place des outils de maîtrise de production. Ça ne joue pas vraiment sur le foncier, ça joue sur les volumes et sur l'organisation des producteurs. Ça a été toute la période des quotas laitiers. Je pense que beaucoup ici se rappellent de ces années 80 quand les quotas ont été mis en place, de l'injustice qu'il y a eu dans la répartition des quotas. Parce que si on avait un petit quota au moment où ça s'est mis en place, on restait avec un petit quota et pour arriver à en avoir un plus important qui permette de dégager un revenu, c'était la croix et la bannière. Il y a eu des mobilisations, y compris en Aveyron. Je pense que certains se rappellent, il y a eu des camions bloqués à Rodez, un peu partout, les laiteries. Et il y a eu cette bataille pour obtenir une meilleure répartition des quotas. Ça n'a pas été parfait, il y a eu des avancées, mais le système a malgré tout figé des situations qui fait que des plus petits agriculteurs ne pouvaient pas arriver à se développer. Dans l'Aveyron, en 1984-85, la moyenne des productions de lait était autour de 60-70 000 litres par ferme, mais il y avait des producteurs à cette époque-là, et ça ne fait pas si longtemps, qui produisaient 12, 15 000 litres de lait avec des quotas de 12 à 15 000 litres de lait en lait de vache. On n'y arrive pas à s'imaginer ça aujourd'hui, où la moyenne, je ne sais pas quelle est la moyenne aujourd'hui en Aveyron, mais on doit être grosso modo autour de 150 000 litres de lait en moyenne à peu près au niveau du département. Donc il y a, en 1984, il y avait des producteurs, il y avait des fermes avec des quotas de 14 000 litres de lait. Et là, je vois un ancien responsable laitier de ce département qui avait mené une bataille pour ramener ce producteur à 70 000 litres de lait. Donc on voit la situation dans laquelle on était. Ça, c'est les années 70-80. En 92, il y a un grand changement. Et ce grand changement va avoir une répercussion, et je dirais la plus grosse répercussion sur la question foncière dans cette période-là. En 92, les règles de la PAC changent. Les règles de la PAC changent pour une raison très simple, c'est que l'Europe, avec les États-Unis, ont négocié des accords commerciaux internationaux qui s'appellent les accords du GATT. Le GATT qui allait ensuite devenir l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, en 1995. Et donc, en préambule à la mise sur les fonds baptismaux de l'OMC en 1995, la réforme de la PAC introduit les règles qui ont été discutées entre l'Europe et les États-Unis sur la gestion des commerces, du marché, comment on allait organiser les marchés. Ces règles amènent des choses draconiennes au niveau des paysans, avec notamment l'alignement des prix payés aux producteurs sur les cours mondiaux. Et ça, ça crée évidemment une situation terrible parce que ces cours mondiaux sont très faibles. Les cours mondiaux sont en dessous des coûts de production. Et donc, si les paysans doivent vivre avec ces cours mondiaux, il est évident que ce ne sera pas possible. Alors, les prix sont alignés sur les cours mondiaux pour que quand on exporte au même prix que le cours mondial et que ce ne soit pas considéré comme du dumping. On pourra revenir sur cette question-là, mais ce n'est pas la question essentielle dans le débat-là. Donc, cette question se pose, on diminue les prix des produits, et évidemment, il y a la nécessité de compenser. Donc, les États, les différents gouvernements, décident de mettre en place des nouvelles règles de distribution des aides, au lieu que ça soit, comme c'était par le passé, en fonction de la production, en fonction des litres de lait ou des kilos produits, ça va être sur des nouvelles règles qui vont être les hectares. Et les hectares vont devenir la référence de la répartition des aides. Et là, bien évidemment, ça crée une situation nouvelle. Avant, il fallait produire pour pouvoir toucher des aides. Alors évidemment, qui dit produire, dit aussi avoir des hectares. Ou alors intensifier la production sur des petites structures. Ce qui peut arriver ensuite à des situations difficiles. Mais avec la réforme de 92 et les années qui ont suivi, et en gros jusqu'à aujourd'hui, on a eu le perfectionnement d'un système où les aides ont été transférées sur les hectares pour ne pas être considérées comme étant des distorsions de concurrence entre les pays dans la vente des produits. Donc on n'a plus parlé de production, on a parlé des hectares. Et évidemment, qu'est-ce que ça veut dire si on se met à aider les hectares? Il faut trouver des critères pour définir comment on va aider les hectares. Et donc, comment on va, en gros, donner un complément de revenu aux agriculteurs pour compenser la baisse du prix de vente des produits agricoles. Et là, on arrive à cette situation où on commence à distribuer des subventions en fonction de ce qu'il y a sur les terres. Alors, il y a des subventions si on fait du blé, il y a des subventions si on fait du maïs, il y a encore mieux des subventions si on fait du maïs irrigué. Si on fait de l'herbe, il y a d'autres subventions. Et pour chacune de ces valorisations, eh bien, il y a une somme d'argent à l'hectare qui est définie. Mais là, évidemment, on est toujours dans une logique de production, toujours dans une logique où, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a même eu un président, c'était encore dans les années 70, qui nous disait « l'agriculture, c'est le pétrole vert hein ». Vous vous rappelez, c'était Giscard qui avait raconté ça. Donc il y a toujours ce fantasme de produire pour exporter. Et donc, on a dit « eh bien, il faut... on va donner les subventions en fonction de ce qui intéresse l'agro-exportation, l'agro-industrie. » Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec une situation très caricaturale où, à l'époque, on est en francs. Celui qui fait un hectare de maïs en silage touche 3500 francs de l'hectare. Celui qui a un hectare d'herbe pour faire pâturer ses vaches ou ses brebis touche 350 francs. Donc, tous les hectares ne se valent pas. Celui qui fait des oléopratigineux, il touche aussi entre les 2005 et 3000 environ. Et on est donc dans des chiffrages qui se mettent comme ça en place en fonction des types de valorisation. Et évidemment, ça crée une situation particulière parce que les hectares où on peut faire pousser du maïs, du blé ou autre, eh bien, prennent plus de valeur. Ça amène une autre conséquence, c'est qu'un certain nombre de secteurs, dans un certain nombre de départements, mais je pense qu'en Aveyron, on a dû voir la même chose, eh bien, on se met à labourer les prairies permanentes pour semer du maïs, parce que les aides maïs vont toucher plus. On a vu des dégâts comme ça, je pense notamment à la Bretagne ou à la Basse-Normandie, qui étaient les meilleures régions herbagères, qui se sont mis à retourner toutes les prairies pour semer du maïs. Cet été, ils se sont rendus compte que ce qu'ils avaient fait était une vraie connerie, parce qu'avec les sécheresses aujourd'hui sur des terres qui pouvaient tenir quand c'était des prairies, les terres, dans ces cas-là, qui ne tiennent pas l'eau, eh bien, ça a été une catastrophe totale et avec des rendements de pire en pire. Donc, dans le cadre du réchauffement climatique, c'est un truc qui va être un boomerang terrible. Mais là, je ferme la parenthèse. Donc, on a ce système qui se met en place dans les années 90, à partir de 92. Et en 2003, il y a une nouvelle réforme. Et en 2003, on se rend compte que là aussi, l'enveloppe va déborder et qu'il y aura besoin de donner de plus en plus d'aide parce qu'évidemment, tous les gens ont compris le jeu et se mettent à reconvertir leurs prairies en maïs et à prendre les meilleures spéculations les plus rentables pour toucher le plus d'aide à l'hectare. Et donc, en 2003, il est décidé une nouvelle chose, c'est de bloquer, de prendre les années précédentes, 2000, 2001, 2002, comme référence, et en fonction de ce que les gens avaient touché avant, sur ces trois dernières années, eh bien, il leur sera octroyé une aide à l'hectare qui correspondra à l'enveloppe qu'ils avaient touchée avant, quoi qu'ils produisent. Et ça, ça a des conséquences, évidemment. C'est que ça amène directement une situation de conflit dans les campagnes, parce qu'il y a des terres qui ont une bonne référence foncière, une bonne DPU, et puis d'autres qui n'en ont pas, ou d'autres qui en ont des plus mauvaises. Et donc, ça amène une bagarre entre les agriculteurs à la vente, puis une bagarre au fermage, puisque les propriétaires reproduisent sur le fermier, quand il y a une transformation, ça, le prix avec les DPU, donc on fait payer à l'agriculteur la DPU, et puis un agriculteur qui cesse avec les retraites qu'on connaît, bah, souvent il va remonter un petit peu à son successeur ou à son voisin qui va lui louer les terres, il va le remonter pour essayer effectivement de récupérer un peu de cette plus-value à l'hectare qui ne touche plus, parce qu'il n'est plus exploitant, parce que c'était lié à l'exploitation. Donc on voit que là, il y a énormément d'effets pervers qui s'introduisent, qui sont en train de se mettre en place. Et dans les années 2003, on arrive, et on le voit au fur et à mesure, et on le voit même ici en Aveyron, où quand on se promène du côté de Réquista, et quand on voit le prix de l'hectare à Réquista à 700-800 mètres d'altitude, on se dit ils sont complètement tombés sur la tête. Ils sont frappés d'alignement de pouvoir payer les terres au prix où elles sont. Et le prix du foncier aujourd'hui est artificiellement haut par rapport à la réalité agronomique qu'on peut produire sur les hectares. Et il y a une distorsion qui se fait entre le prix du marché et la réalité agronomique des terres. Donc là, on a un problème qui est introduit directement par ces aides perverses qui n'ont pas du tout été calculées en fonction d'une réalité écologique au sens agronomique et territorial, ni en fonction de la réalité de l'agriculture et de la production. Donc ça, ça a été un effet très dangereux. Il y a un autre effet qu'on a rencontré en parallèle qui est lié aussi à la PAC et qui est lié à la prise de conscience du système de pollution dans lequel on était, notamment dans les zones de très grande concentration de production animale. Et je pense notamment à l'Ouest, pour ce qui nous concerne, mais on pourrait parler du Danemark, de la Hollande ou de certaines régions de l'Allemagne, où les grosses concentrations de production animale amènent la nécessité de gérer le foncier en fonction des déjections animales. Et là, on empile sur les autres règles une nouvelle législation européenne qui se traduit ensuite dans les droits nationaux sur la nécessité d'avoir des hectares pour épandre la merde. Et ça, ça devient une politique en soi. C'est-à-dire qu'un nouveau marché du foncier se met en place, le marché du foncier des déjections. Alors ici, ça ne nous dit pas grand-chose, parce qu'effectivement, on n'est pas confronté de manière globale. Sauf dans certains endroits où se mettent en place, par exemple, des porcheries industrielles, où là, la course du promoteur de la porcherie, privée ou coopérative ou n'importe, son premier souci, ce n'est pas tellement de savoir où il va mettre la porcherie. D'abord, le premier souci, c'est de ne pas se faire trop emmerder, donc de rester discret quand il va le faire. Mais après, le vrai souci qu'il a, c'est de trouver les centaines d'hectares nécessaires pour épandre ces déjections. Et donc là, on commence à retrouver un deuxième marché, qui est le marché des déjections. Et ça amène une situation paradoxale dans un certain nombre de départements, Dieu soit loué par l'Aveyron, mais je pense aux Côtes d'Armor, je pense au Finistère, l'île et Vilaine un peu moins, sauf sur certains cantons, où aujourd'hui, on ne peut plus installer d'agriculteurs parce qu'on ne peut pas mettre une vache ou même une brebis de plus sur le canton parce qu'on est en zone d'excédent structurel d'animaux en termes d'épandage sur la surface du canton. Et donc, ceux qui ont accaparé, qui ont construit des énormes porcheries industrielles, eh bien, comme ils ont besoin de centaines d'hectares, les vaches qui sont déjà là, elles sont là, donc ça fait encore d'autres surfaces. Eh bien, un jeune qui veut s'installer ne peut pas s'installer en production parce que l'ensemble des terres sont bouffées au niveau des déjections animales. Et donc là, on se retrouve sur une drôle de gestion du foncier qui est quand même très particulière et qui bloque l'installation. Donc, y compris des petits projets se retrouvent en production animale bloqués par ce processus. Donc, on est aujourd'hui un peu dans cette situation. On était jusqu'à maintenant dans cette situation avec, donc je vous disais, les problèmes liés au fermage qui peuvent monter, le prix des terres quand il y a des références importantes qui peuvent monter, donc le fermage monte, la vente monte. Le problème, c'est qu'en même temps, eh bien, on a vu tous les prix des produits agricoles s'effondrer. C'est-à-dire qu'on avait parlé de l'alignement sur le prix mondial. Aujourd'hui, c'est même plus de ça qu'on parle, c'est qu'aujourd'hui, tous les prix sont en dessous des coûts de production. Et on est dans une situation complètement dramatique, et notamment sur toutes les productions animales qui, aujourd'hui, n'arrivent plus à couvrir les charges. Donc, c'est vrai que cette question devient une question globale. Alors, qu'est-ce qui va changer? Et puis, je vais arrêter peut-être après. Qu'est-ce qui va changer, qui peut changer en 2013? Donc, la semaine dernière, le 18, le commissaire européen à l'agriculture, Dacian Ciolos, donc qui est roumain, a présenté devant le Parlement européen le projet de réforme de la PAC. Donc, ça, c'est donc tout nouveau, ça a une semaine. Alors, je ne vais pas vous donner les. Si quelqu'un veut me poser la question combien il va toucher à l'hectare, je suis incapable de vous le dire. Parce que là, ce qui est clair, c'est que ce premier texte qui est sorti, qui fait grosso modo 20-25 pages, donne des orientations générales. Ces orientations générales qui doivent être débattues donneront lieu dans le courant de l'année prochaine, un an et demi. On va sortir à partir de ça des directives législatives qui, elles, seront les règles du jeu qui seront ensuite appliquées et déclinées par les États. Donc on est encore à 2 ans. Grosso modo, les règles du jeu ne seront pas claires avant la mi-2012. Là, pour l'instant, c'est des principes qui ont été annoncés par le commissaire. Alors, je mets encore là aussi beaucoup de guillemets pour pas que les gens se disent « ça y est, les choses vont changer, il suffit de rester à la maison ». Pour l'instant, il y a des principes qui ont été annoncés, mais compte tenu des États, des 27 pays européens, des égoïsmes de ces pays, qui ne veulent pas dépenser plus et dont certains disent qu'il faut même diminuer la PAC, il faut attendre qu'on soit au bout des courses pour savoir ce que ça réellement la politique à partir des grands principes qui ont été annoncés. Si on s'en tient au niveau des grands principes, il y a des choses très nouvelles qui sont annoncées par le commissaire. Ces choses très nouvelles sont d'abord l'abandon des aides historiques de 2003. Normalement, les aides de 2003 vont être remises en cause. Alors, ça peut avoir des conséquences importantes positive, mais évidemment, moi, je me mets à la place des gens qui touchaient des aides de manière importante à certains endroits et qui font se dire, mais qu'est-ce qui va se passer si du jour au lendemain, je me retrouve avec des aides qui sont réduites par rapport à d'autres, etc. Tout ça, ça ne va pas se faire en un an, ça va se faire sur 4-5 ans. Ça fait partie des débats qui auront lieu dans l'année et demie à venir. Donc, répartition différente des aides, abandon des aides historiques. Ça, je crois que c'est très important comme principe. J'espère que ce principe sera réellement mis en application. En tout cas, le commissaire s'est engagé sur cette voie-là. C'est un principe fondamental. Ça veut dire qu'on sort de cette logique-là et qu'on va essayer de revenir à une aide à l'hectare qui serait équivalente, évidemment, en fonction des régions géographiques, en fonction d'un certain nombre de critères qu'il va falloir définir. Mais globalement, on revient vers un soutien à l'hectare qui sera beaucoup plus égalitaire en fonction des différentes surfaces. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, ces aides à l'hectare seront réparties différemment, c'est toujours le commissaire qui parle, en fonction des exploitations et du nombre d'actifs sur les exploitations. Et ça, c'est très nouveau parce que c'est la première fois qu'un commissaire européen emploie des termes comme ça. En gros, une ferme qui a 100 hectares et qui a un emploi, un paysan qui travaille, eh bien, ce n'est pas la même chose qu'une ferme qui a 100 hectares où il y a 2 ou 3 personnes qui travaillent. Que ces personnes soient agriculteurs en GAEC ou en co-exploitation ou agriculteurs et salariés. Et donc, c'est l'idée de dire qu'il faut que l'emploi participe à la répartition des aides à l'hectare. Ça, c'est aussi tout à fait nouveau. Troisième élément qui est donné par rapport toujours à la question des surfaces, c'est la volonté de couper l'herbe, c'est le cas de le dire, au pied de ceux qui ont utilisé la PAC uniquement dans des intérêts spéculatifs sans travailler. Donc on a des noms faciles qui reviennent chaque fois, comme la reine d'Angleterre, comme le prince de Monaco, comme la princesse d'Alba, ça c'est en Andalousie, mais il y a aussi des entreprises. Et il y a aussi des entreprises, on le voit en Roumanie, on le voit en Hongrie, qui accaparent des terres et qui ne les répartissent, qui, évidemment, qui n'en font pas forcément grand-chose, si ce n'est de toucher des aides à l'hectare. Et donc là, le principe, c'est de couper l'herbe sous les pieds à ces gens qui utilisent la PAC sans avoir d'activité agricole. Donc là, c'est une autre façon de dire que les aides doivent être liées à l'activité, à la production agricole, et pas simplement au fait d'avoir des hectares. Parce que dans la PAC telle qu'elle est de 2003, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, à partir de 2003, les gens ont touché des aides à l'hectare qui produisent ou qui ne produisent pas. Ça, ça doit changer, effectivement. Parce que quelle est la légitimité d'une politique qui permet aussi à des rentiers de pouvoir continuer à s'engraisser sur l'argent des contribuables? Donc ça, ça devient aussi une question de morale politique, je dirais plutôt de morale fiscale. Donc ça, a priori, ça va changer. Dernier point que je veux aborder là de suite, et qui est un point assez nouveau, c'est la question des petites exploitations. Parce que là, on se rend compte, et ça a été un des points sur lequel on a beaucoup discuté avec le commissaire avant qu'il rende public son texte, c'était de dire, jusqu'à présent, les gens qui ont touché les aides, c'était quand même une minorité d'agriculteurs par rapport à l'ensemble des agriculteurs européens. Et donc les chiffres qui sont les chiffres de la Commission européenne, qui sont les chiffres de la Cour des comptes européenne, qui a fait un rapport sur ce sujet, remontrent des choses qu'on a dit souvent les uns et les autres depuis des années, que la Confédération a dit très souvent, 80% des aides vont à 20% des agriculteurs. Ce qui veut dire qu'il y a aussi énormément d'agriculteurs, plus de 50%, qui n'ont pas un centime d'aide. Donc on a des situations aujourd'hui injustes entre les agriculteurs par rapport aux hectares, par rapport aux aides qui touchent, entre ceux qui touchent et ceux qui ne touchent pas, des différences très importantes entre les pays de l'Ouest et les pays de l'Est, puisqu'évidemment, quand ils sont rentrés dans l'Europe, on leur a dit, vous n'allez pas être grand de suite, donc vos aides seront la moitié de celles qu'on touche à l'Ouest. Les paysans, ils se disent, on n'est pas plus con que les autres, et on se travaille pareil, et quand on se lève le matin pour traire, c'est à peu près à la même heure. Je ne vois pas pourquoi ça serait différent pour nous et par rapport à vous. Donc, il y a aujourd'hui une remontée de ce côté-là. Donc là, clairement, aujourd'hui, il y a l'idée de dire qu'il faut à nouveau redéployer. Mais quand on redéploie, jusqu'à présent, et on l'a vu avec notamment la dernière commissaire agricole, Madame Fischer-Ball, certains doivent se souvenir de cette brave dame qui est, dont le mari était producteur de porc industriel et qui louait des terres en même temps en Ukraine. Donc elle avait une vision très spéciale de l'agriculture qui était faite vraiment pour une minorité d'exportateurs. Là, le commissaire qui est lui est roumain et qui vient d'une autre réalité sociale, après les discussions qu'on a eues avec lui, a affirmé quelque chose qui n'a jamais été dit à la PAC. Est-ce qu'on arrivera au bout ? J'en sais rien. Mais ça a été annoncé, martelé, jeudi dernier. L'idée, c'est de dire, on va reconnaître les petites fermes comme des entités économiques. Les petites fermes, pour dire, les petites fermes ont une réalité sociale et une réalité économique, pas sur le marché international, pas sur le marché intra-européen, mais sur le marché local. Et ces fermes doivent pouvoir être soutenues comme les autres, parce que, un, elles créent de l'emploi, deux, elles maintiennent de la biodiversité, et elles font vivre toute une économie locale. Eh bien, aujourd'hui, ces petites fermes, il va falloir d'abord les définir. Est-ce qu'on va les définir sur les hectares ? Est-ce qu'on va les définir sur un chiffre d'affaires ? Est-ce qu'on va définir ça par rapport à des gens qui vendent ou ceux qui mangent simplement ce qu'ils produisent ? Mais si on le prend, par exemple, en termes de surface, puisque ce soir, on parle du foncier, eh bien, il faut savoir que ces petites fermes, aujourd'hui, sont ramenées au niveau statistique sous le seuil de 5 hectares. 5 hectares est le seuil de définition, un des seuils, parce qu'il y a le seuil économique et le seuil par rapport aux aides, etc., ou à la spécialisation. Mais si on prend uniquement le seuil en hectares, ça représente aujourd'hui en Europe 11,2 millions d'exploitations. 11,2 millions d'exploitations, ce qui est absolument considérable. Considérable. Et ça, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ces exploitations n'ont jamais été prises en compte. Donc là, il y a un enjeu important. Un enjeu à la fois pour énormément de pays de l'Est, où ces fermes représentent un tissu très important, et aussi ça représente un enjeu par rapport à tous ceux qui veulent imaginer un autre avenir dans l'agriculture au niveau local, avec, je pense, par exemple, aux AMAP, avec le développement des circuits courts, avec énormément d'autres types de production comme ça. Tout ça, aujourd'hui, effectivement, ça rentre dans cette définition des petites fermes. Donc, c'est une vieille revendication, ce combat, pour la reconnaissance des petites fermes. Et ce qu'a dit le commissaire dans son intervention, c'est de dire, ces petites fermes existent, et on ne va pas attendre qu'elles grossissent, et que donc, il y en ait une qui grossisse et neuf qui disparaissent, pour donner des aides à celle qui va rester. Il faut que les 10 aient le droit, dans leur fonction sociale et leur fonction économique définie à partir d'une réalité spécifique, de pouvoir continuer à exploiter. Donc voilà un peu grosso modo ce qui peut changer sur le foncier en lien avec le foncier, avec les aides. Alors évidemment, ça peut avoir des conséquences sur le prix des terres, sur le prix du fermage, sur l'accès au métier. Sur l'accès au métier, si on a une meilleure répartition des aides, ça veut dire qu'on va pouvoir s'installer sur des produits qui sont peut-être moins gourmands en investissement financier pour acheter ou des terres ou du matériel. On va donc pouvoir peut-être monter des projets plus alternatifs. Et ça va avoir évidemment des effets sur la pratique agricole, puisque dans ce cadre-là, dans le cadre de ce projet, il est proposé de faire en sorte que la pratique agricole sera liée aux aides. C'est-à-dire qu'il ne suffira pas simplement d'avoir une aide à l'hectare pour en bénéficier. Non seulement, il faudra avoir les hectares et prouver qu'on travaille. Deux, ça sera en fonction du nombre d'actifs. Et trois, ça sera en fonction des pratiques agricoles qu'on aura. C'est-à-dire que celui qui fait maïs sur maïs sur maïs pendant 10 ans, eh bien, se retrouvera pénalisé. Donc l'idée, c'est d'inciter à la rotation des cultures, à la démission des pesticides et à énormément de pratiques qui font qu'il y a à la fois un renouvellement sur le sol, que l'eau ne soit pas polluée, que la biodiversité soit respectée. Il y a l'idée d'introduire ces éléments dans cette réforme. Jusqu'à présent, ces éléments étaient dans ce qu'on appelle le deuxième pilier. Là, l'idée, c'est que ce sera directement dans l'aide aux producteurs dans le premier pilier comme dans l'aide aux revenus où on introduira l'environnement. Donc ça, ça fait des, voilà, des choses un peu qui vont, un peu qui sont aujourd'hui à la discussion. Donc la discussion va démarrer, on va en gros parler pendant 1 an et demi, 2 ans, mais c'est vrai que si on le fait seul, en tant que député européen, c'est bien, mais je pense que ça sera encore mieux si au niveau des pays, au niveau des organisations syndicales, au niveau des communes, partout, les gens aussi se mobilisent pour dire comment ils envisagent l'avenir de l'agriculture à partir d'une nouvelle orientation. Mais c'est vrai qu'on ne pourra le faire que s'il y a une volonté de tous et de toutes de pouvoir mener cette bagarre. Je pense que le plus grand danger, ça serait de laisser cette histoire uniquement aux élus. Les élus ont une légitimité, mais ils n'ont pas la légitimité au quotidien, ni sur les fermes, ni au niveau des communes et des territoires. Merci.
Comme on vous l'a dit juste avant de commencer la conférence, on va prendre 10 petites minutes pour boire un coup, comme dans un bistrot. Ceux qui ont parlé plus que d'autres auront que plus soif. Et on reprend avec les questions de la salle. A tout de suite.